Merci beaucoup, Charles.
Si un enseignement est bon, il doit susciter deux réactions dans le cœur de chacun de nous. D'une part, comment est-ce possible de vivre cela? Avec peut-être un peu de découragement. Comment je peux accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir quand je me connais tel que je suis? Et donc un peu de détresse, Seigneur, viens à mon aide. C'est invoquer Dieu de dire ça. Viens à mon aide, sinon je ne peux pas. En un sens, la vie chrétienne, elle n'est pas difficile, elle est impossible. C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Dieu rend possible ce qui est impossible. Et donc le deuxième sentiment, c'est quand c'est que l'enseignement s'arrête pour qu'on commence tout de suite. Vraiment, hein, je peux vous dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop long non plus. C'est vrai. Et même dans la prière, quelquefois, on peut dire, dans la prière, il y a une dimension de combat. Seigneur, ça fait déjà 5 minutes que je prie, j'ai l'impression que ça fait 1 heure, hein, j'ai plus quoi dire. Hein, et en même temps, vite que ça s'arrête, que je vive ce que je viens de dire. Et les prières les plus longues ne sont pas forcément les plus utiles. On peut prier courtement et être tout de suite dans les voies du Seigneur. Voilà, donc tout ça, ça nous montre de laisser les œuvres pour rentrer dans les œuvres, hein. Abandonner les œuvres qui s'accumulent et rentrer dans les œuvres que Dieu ouvre, que Dieu prépare. Et donc en un sens c'est impossible, et en un sens c'est très facile. Même un enfant peut le vivre, même quelqu'un qui ne sait pas lire peut le vivre. Franchement. Alors, Marc Étienne m'a demandé un message, j'ai préparé 4 messages. Je ne sais pas si c'est ça, mais bon, on va voir. 4 courts messages d'une heure. Non. On va voir comment on est conduit. Et donc, ces 4 messages, ça fait un peu peur, 4 messages, hein, mais 4 approches, quoi, sont présentés dans votre petit cahier. Ils sont là. 1, 2, 3 et 4, aux pages 2 et 3. Donc, vous avez le condensé. Vous avez le condensé de ces 4 messages. Et moi, quand je vais rentrer chez moi à Alès lundi matin, je vais envoyer à Pierre, à Marc-Étienne, je vais envoyer le texte complet de ma présentation. Donc, ça veut dire une page complète de notes pour chacun de ces paragraphes, si vous voulez le relire. Bon. Voilà. Et l'objectif, c'est donc chaque fois d'être à l'écoute de ces 4 thèmes, et puis, après chacune de ces présentations, de passer un temps d'échange. Pas d'échange pour discuter sur 1000 choses qui nous distrairaient, mais vérifier qu'on a bien compris. D'accord ? Voilà. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous vouliez dire ? Voilà. Et après, peut-être déjà, on rentrera dans un temps de recueillement pour essayer de s'approprier ces choses, commencer à les vivre, avant de passer au deuxième point, et au troisième, et au quatrième. Donc il va y avoir une alternance d'écoute et puis d'appropriation. On pourrait dire de semence et de début d'enracinement, pour que les oiseaux ne viennent pas trop rapidement picorer ce qu'on a entendu et partir avec. Voilà. Moi j'aime les oiseaux, j'aime beaucoup les oiseaux. Je passe ma vie à photographier des oiseaux, pour vous dire. Mais en même temps, la Bible dit les oiseaux, ils prennent la parole de Dieu et ils s'en vont avec, et après il n'y a rien qui pousse. Bon, on ne va pas laisser les oiseaux nous piller, d'accord ? Voilà. Alors, le premier point, vous le voyez, s'appelle « Dieu au centre de ma prière ». Quand j'étais pasteur à Vauvert, on avait une réunion de prière toutes les semaines et on disait, voilà, le premier sujet de prière, c'est Dieu. On a des listes de prières, bien sûr, hein, c'est normal. Enfin, c'est normal. Les sujets de prière sont infinis. Souvent, quand je visite les personnes à l'hôpital, avant de les quitter, je leur dis, est-ce que vous aimeriez qu'on prie ensemble? Et si elles me disent oui, je dis, de quoi vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on demande à Dieu maintenant? Alors, elles sont perplexes. Parce que qu'est-ce que je vais demander à Dieu? On va revenir à ce sujet tout à l'heure. Voilà, alors on peut dire ben, que j'aille mieux, que j'aille mieux, bon, voilà. Ou bien une dame me dit, une grand-mère me dit, mais moi j'ai ma petite fille qui ne m'écrit plus depuis 2 ans et elle commence à pleurer. Vous voyez la différence entre... Alors, les deux peuvent être entendus, n'est-ce pas? Mais voilà, de quoi... Voilà. Mais le premier sujet de prière, hein, normalement, c'est Dieu. Commencez par Dieu. Le Notre Père nous montre ça. Très fort. Vraiment très fort. Hein. Ne multipliez pas les prières. Hein. Dites Notre Père qui est aux cieux. Voilà. Que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Oui. Commencez par Dieu. Prendre le temps de commencer par Dieu. Et à la fin encore, à toi le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Entre les deux, il y a évidemment des demandes. Mais vous voyez, les demandes sont encadrées par des paroles qui focalisent sur Dieu. Voilà. Ça me paraît vraiment très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce recentrage sur la personne de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Franchement, quelle demande, hein, que ton nom soit reconnu tel qu'il est aujourd'hui. Moi, quand je roule en voiture, j'écoute France Culture ou enfin quelques radios comme ça. Et hier soir, j'écoute sur France Inter une romancière anarchiste qui dit voilà, fini les dogmes, les doctrines, les croyances et la religion, l'homme qui est libéré, qui se met devant, qui fait tout ce qu'il veut. Je dis zut, je vis sur France Culture le même thème. Le même thème exactement, c'est incroyable. Deux radios différentes, deux intervieweurs différentes, deux interviewées différentes, le même thème. L'anarchie, le plaisir. Ce matin, en venant, vous allez dire, ce pasteur, j'écoute la radio que en voiture ou presque. Mais ce matin, en arrivant, je ne sais pas où je l'ai mis, hein, c'était une interview extraordinaire, hein, avec Alain Finkielkraut et Marcel Gaucher. Deux grosses pointures, hein, qui réfléchissent sur le rapport entre l'Occident et les extrémismes religieux. C'était fabuleux comme interview. Et un des intervenants disait, je l'ai noté sur un petit papier, hein, voilà, mon plaisir, ma liberté, mes droits. Je crois que c'est 3 termes. Mon plaisir, ma liberté, mes droits. La focalisation sur moi. La focalisation sur l'homme. Ça, c'est le contexte dans lequel on est, voyez. Et la prière, comment dire ça? C'est pas une fuite de la réalité dans laquelle nous sommes. Je veux dire, nous sommes dans cette mentalité-là, qu'on le veuille ou pas. On le respire. Nos enfants le respirent, l'entendent, toutes les chansons, les professeurs, les instituteurs, les émissions à la radio, à la télé, les affiches sur le long des rues, enfin, tout nous dit ça. Les devantures de magasins, tout nous dit ça. Et toi, et toi, et toi, et moi, et moi, et moi. Et quelle place il reste pour Dieu? Et les fondamentalistes disent Dieu, mais d'une manière qui fait peur, parce que le contraste est énorme. Voyez, comment on va tenir ensemble la sécularisation de notre société? Ça veut dire, il n'y a plus de place pour Dieu. Plus de place pour Dieu. Et un islam qui brandit des mitraillettes. C'est pas que ça, l'islam. Enfin, voilà. Voilà. Voyez? Donc, je me lève le matin, mon café. Ensuite, quel temps il fait? Comment je m'habille? La radio? Et Dieu? Voyez? Et donc, même nous avons du mal à nous situer parce que le contexte, alors c'est pas une excuse, mais c'est une explication quand même. Et c'est pas une excuse, mais en France, c'est particulièrement difficile, je pense, quand même. C'est pas une excuse, c'est une raison pour s'armer davantage. Quand j'étais à la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, il y avait un de nos professeurs qui nous a beaucoup marqué, il s'appelait Pierre Courtial. Pierre Courtial était pasteur pendant 40 ans à Paris. Évidemment, il avait une très grande expérience. Il nous a beaucoup, beaucoup apporté d'éléments. Et Pierre Courtial nous a raconté l'histoire. Vous voyez, ce qu'on retient d'un grand professeur, des fois, c'est des anecdotes qu'on pourrait raconter comme ça à table. Hein. Il nous dit, il y avait un berger, je ne sais pas où, qui tous les matins en se levant, disait... Seigneur, ton serviteur se lève. C'est pas dur, hein. C'est pas dur, mais on le fait pas forcément. Eh bien, depuis quelques... Moi, j'ai jamais oublié ça, hein, mais je me le suis rappelé ces dernières années. Et depuis quelques années maintenant, je le fais. C'est une discipline, ça fait partie de la discipline de vie. Donc, la première pensée le matin, avant de dire « Bonjour chérie, est-ce que tu as bien dormi ?» ou « Quel temps il fait ?» ou « Comment va la météo ?» ou « Comment je vais m'habiller ?» ou « J'ai mal dormi ?» ou « Sont mes pantoufles ?» Enfin, je sais pas quoi, hein. La première pensée... De dire, hein, la première pensée, les prémices. Vous voyez comme c'est important, les prémices? Les prémices d'une récolte. Jésus, les prémices des nouveaux-nés du royaume de Dieu. Les prémices annoncent la récolte, vous voyez. Seigneur, ton serviteur se lève. Je le fais. Et quand je l'oublie, ça m'arrive une fois par mois d'oublier, je me dis, pourquoi tu as oublié ce matin? Quelque chose est venu prendre la première place. C'est pas grave, n'est-ce pas? Le Seigneur est patient. Mais vous voyez, ça veut dire que c'est jamais acquis complètement. C'est la dimension du combat. Mais quand même, la discipline aide. Et maintenant, je le fais. Alors, ça peut être, Seigneur, ton serviteur se lève ou ta servante se lève. C'est pas sot, hein. Ça peut être aussi le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous imaginez débuter la journée comme ça? C'est formidable. Alors, c'est pas un truc magique. Mais je pense quand même que ça honore le Seigneur, vraiment. Hein. Seigneur, tu es le premier dans cette journée. Et je pense que honorer le Seigneur en débutant sa journée, c'est favoriser la foi, c'est favoriser l'écoute, c'est déjà rejoindre le Saint-Esprit, c'est déjà mettre sa main, c'est déjà s'accorder avec Dieu. Voilà, vraiment. Et je pense qu'après, on peut faire l'andouille jusqu'au soir. Vous voyez, comme quoi, c'est pas magique, hein. C'est pas enregistré au moins. Bon. C'est enregistré, non? J'ai perdu.
On fera un petit bip à ce moment-là.
Alors, mais quand même, je pense que c'est déjà s'approcher de Dieu de faire ça. Et la Bible dit, si vous vous approchez de Dieu, il s'approche de vous. C'est-à-dire, la distance est moins grande. Et le but, c'est qu'il n'y ait plus de distance. Franchement, le but, c'est qu'il n'y ait pas de distance. C'est le but de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est le but de la prière, c'est le but de la vie chrétienne, qu'il n'y ait plus de distance. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, ça veut dire pas de distance. Vous imaginez une distance entre un cep et un sarment? Ah, ils sont très près. Ils sont très très près, mais les feuilles commencent à se racornir, vous voyez. Il n'y aura pas beaucoup de raisins, voilà. Il ne faut plus qu'il y ait de distance. Voilà, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Franchement, c'est incroyable, hein? Afin que mon Père soit glorifié. Le but, c'est Dieu, c'est pas moi. Moi, je peux mourir. Voilà. Mais que dans ma mort, Dieu soit glorifié, parce que je meurs dans la foi. Bon. Qu'il n'y ait plus de distance. Alors, voilà, ça veut dire que pour nous, chrétiens, moi, je crois qu'il y a une différence totale entre un chrétien et un non-chrétien, hein, quand même, une différence totale. Il n'empêche que le chrétien ressemble au non-chrétien, à bien des égards. Et un chrétien à l'hôpital ressemble à un non-chrétien. Il a mal, il est inquiet, voyez, il tremble, il sue, voilà, voilà. Mais quand même, il est chrétien. Voilà. Je vous donne une autre image qui peut-être peut aider à... que j'appelle les flèches qui montent et les flèches qui descendent. Je ne sais pas si je l'ai marqué dans mon... Oui, c'est marqué, les flèches qui montent, ben voilà. Notre Père qui est aux cieux, qui est au ciel, qui est aux cieux, voilà, que ton nom sanctifié, c'est une flèche qui monte. Vous êtes d'accord? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom sanctifié, c'est une flèche qui monte. Que ton règne vienne, c'est une flèche qui monte encore, n'est-ce pas? Qui rejoint Dieu, même si lui se penche vers nous ensuite. Que ta volonté soit faite, c'est une flèche qui monte. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est une flèche qui descend. On a le droit, c'est pas interdit. Jésus qui vient nous racheter, c'est une flèche qui descend. Donc on va pas opposer les flèches qui montent et les flèches qui descendent. Seigneur, viens à mon aide, c'est une flèche qui descend. Seigneur, penche-toi vers moi. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Sonde-moi, ô Dieu. Ce sont des flèches qui descendent. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ce sont des flèches qui montent. Quand vous écoutez une prédication, quand vous lisez la Bible, quand vous priez, quand vous sondez vos pensées, remarquez le nombre de flèches qui montent, le nombre de flèches qui descendent. Il faut au moins que ça soit équilibré. Voilà. Et donc, C'est un peu schématique comme image, hein, mais je pense que c'est utile. Si vous voulez, je le dirais comme cela, la maturité de la foi, c'est les flèches qui montent. Et des fois, ça va être dans la lutte, vous savez. Quand Jésus dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est une flèche qui descend. Toutefois que ta volonté soit faite et pas la mienne, c'est une flèche qui monte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une flèche qui descend. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une flèche qui monte. Vous voyez, dans la bouche de Jésus, dans les moments d'inconfort, terrifiant, il y a les deux. Donc ça veut dire que les deux sont légitimes. Jésus ne pêche pas quand il dit « si tu voulais éloigner de moi cette coupe ». Il ne pêche même pas quand il dit « pourquoi m'as-tu abandonné ?» Malgré le trouble profond qui est dans son cœur. Il ne pêche pas, puisqu'il n'a pas péché. Mais vous voyez, tout de suite après, dans les deux cas, « Seigneur, toutefois, cependant. » Voilà. Jacques le dit aussi comme ça. Ne dites pas « nous ferons ceci ou nous ferons cela ». Dites « nous ferons ceci ou nous ferons cela » si c'est la volonté de Dieu. Voilà la flèche qui monte, qui vient montrer qu'on n'est pas des brebis sans verger. On n'est pas des sourds, des aveugles et des muets, n'est-ce pas ? On n'est pas des feuilles que n'importe quel vent emporte à droite et à gauche. On est reliés. Les flèches qui descendent, c'est Dieu qui se penche vers nous. C'est l'évangile quand même, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'évangile, c'est l'invocation, c'est la supplication, c'est même l'intercession quelque part. Seigneur, viens en aide, prends pitié, je te confie. Voilà, c'est que le Seigneur se penche vers sa création, vers son peuple, hein, vers ses rachetés. Il n'y a rien à dire à cela, n'est-ce pas? Mais la finalité, c'est Dieu. Voilà, tout vient de Dieu. Et tout est pour Dieu. Tout vient de Dieu, les flèches qui descendent. Tout est pour Dieu, les flèches qui montent. Et les flèches qui montent, c'est sanctifier le nom de Dieu. Hein. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire que chacun retrouve sa place par rapport à toi et te rende l'honneur qui te revient, Seigneur. Voilà. Voilà. Et je pense même l'amour agapé. L'amour agapé dont parle en Corinthiens 13, c'est une flèche qui descend ou c'est une flèche qui monte? C'est les deux, vous voyez, parce que cet amour, nous l'avons reçu. Donc c'est vraiment la flèche qui descend, c'est la dimension de la grâce. Mais tout amour agapé honore Dieu, même l'amour entre nous. Tout amour agapé honore Dieu. C'est un amour qui révèle Dieu. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, ils verront que vous êtes mes disciples, et donc ils verront le maître. Voilà. Et donc, voilà, si je n'ai pas cet amour, je suis une cymbale qui retentit. Donc, les flèches qui montent, c'est les flèches de notre vocation d'hommes et de femmes rachetés par Dieu. Voilà. Dieu au centre de ma prière, vous voyez, c'est le premier point de notre méditation de ce matin. Dieu au centre de ma prière. Cette image est venue à mon esprit aussi. Si je mets la pointe du compas au centre de la rosace sera belle. Hein? Voilà. C'est le centre qui ordonne l'ensemble, si vous voulez. Et donc, si cela est vrai, le temps passé devant Dieu pour s'accorder avec Dieu, c'est loin d'être un temps perdu, franchement. C'est un temps gagné. C'est un temps gagné parce que c'est ce temps-là qui va me permettre de trouver la parole juste, hein. Ce que la Bible appelle la parole, ce que le livre des Proverbes appelle la parole opportune, hein. J'ai plus de verset en tête, mais quelle est bonne la parole opportune, qu'elle fait du bien, elle est comme le miel dans la bouche, elle est comme de l'or pur, n'est-ce pas, la parole qui arrive à point nommé, la parole juste, la parole exacte, la parole qui tombe pile poil. Et n'importe qui peut donner une parole comme cela, même un enfant. Voilà. Et bien cette parole, elle est donnée par Dieu, bien sûr. Elle est donnée par Dieu à celui qui s'est accordé avec Dieu, à celui qui a dit que ta volonté soit faite et pas la mienne. Est-ce que je suis en mesure d'entendre ceci? L'important, c'est pas ce qui me fait du bien, c'est de plaire à Dieu. Voilà, je suggère cette interrogation. Hein. Ce qui me fait du bien, ça peut être légitime. J'ai le droit de dire à Dieu, tu vois mon souci, tu vois comment je suis indécis, tu vois la peine que j'ai dans mon cœur en ce moment. Seigneur, mets-moi en repos, vous trouverez du repos pour vos âmes. J'ai le droit de demander des choses pour moi. Mais est-ce que je peux dire, le plus important, c'est de plaire à Dieu. Je pense à un chrétien âgé que j'ai visité quand j'étais à Vauvert, peu de temps avant sa mort. Il souffrait notamment d'une jambe douloureuse, il ne pouvait plus vraiment se lever. Et quand je l'ai quitté, il m'a dit, ne priez pas pour que j'aille mieux, priez pour que je sois fidèle. Mon enfant, je me suis dit, la leçon qu'il me donne, ce vieillard. Ne priez pas pour que j'aille mieux, priez pour que je sois fidèle. Et est-ce que je peux dire à quelqu'un d'autre cela? Le plus important, c'est que ta vie soit agréable à Dieu, c'est que tu fasses ce que Dieu désire. Est-ce que je peux même le dire à quelqu'un qui souffre sur un lit de malade? Parce que vous voyez, la souffrance, on va en reparler peut-être dans la journée, la souffrance, dans un premier temps, tend à nous focaliser sur nous-mêmes. Je souffre, même Jésus, hein, voilà. Éloigne de moi cette coupe. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est inévitable, n'est-ce pas? La souffrance, voilà, et moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, la souffrance peut nous rendre, quelquefois, égocentriques. Et en même temps, la souffrance peut nous libérer de nous-mêmes en disant, voilà, j'abandonne. Je comprends que j'abandonne cela. Vous voyez, j'abandonne les projets que j'étais en train de faire. J'abandonne cette chose que j'aimais tellement. Je sens que maintenant, je dois la mettre de côté. Ce n'est pas ça le plus important. Le Seigneur me montre autre chose que je n'arrivais pas à saisir. Un travail énorme qui se fait dans le temps d'épreuve, vous voyez, le temps du désert, on va y revenir. Voilà. Mais est-ce que je peux dire, même à quelqu'un qui souffre, le Seigneur s'occupe de toi, mais pour toi le plus important c'est de trouver la volonté de Dieu pour ta vie. Certainement il veut te parler pendant ce temps-là. Il a des choses importantes à te dire. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? Vous voyez? Et c'est presque mourir, ça. C'est presque mourir à soi-même, quelque part. Au moment où je serais tenté de dire, mais et moi, pourquoi tout le monde ne s'occupe pas de moi? Voilà, de dire, Seigneur, maintenant, peu importe ma vie, l'important, c'est d'aimer ta volonté. C'est mourir. Quelle délivrance! C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est ce qu'on appelle le travail du deuil, quelque part. Dans le milieu des soins, n'est-ce pas? Dans l'accompagnement, etc. On appelle ça le travail du deuil. Ce travail du deuil, il est porteur de renoncement, de mort, mais il est porteur de lumière inimaginable. Inimaginable. Vous voyez? Déjà, les yeux voient l'horizon lumineux. Les autres disent encore, mange encore un peu de nouilles, mange encore un peu de viande, ça te fera du bien. Il dit, mais moi, je vois la lumière du royaume de Dieu qui brille déjà et me tarde d'y être. Vous voyez le décalage? Mange encore un peu, après on ira chez tata Ursule. Mais non, c'est passé tout ça maintenant. Maintenant, mon but, c'est d'être plus proche encore de Jésus, tellement je vois qu'il est désirable. Et nous qui sommes encore en bonne santé, plus ou moins, on est entre les deux, hein, entre la viande, les nouilles, tata Ursule et la volonté de Dieu. Et c'est difficile. C'est difficile. Mais voilà, mettre Dieu en premier. Faire au Dieu ta volonté. Faire de l'Éternel ses délices. Vous connaissez, hein, ce verset du psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. C'est incroyable ce verset, hein? Et tu en auras ce que ton cœur désire, hein? C'est-à-dire lui. Hein? Tu fais de l'Éternel tes délices et tu en auras ce que ton cœur désire. C'est incroyable ce verset. C'est pas c'est de l'humour ou de la pédagogie, mais c'est un verset incroyable, quoi. Seigneur, je fais de toi mes délices et tu vas combler mon cœur. Tout le reste sera en dessus, sera en plus. C'est ce que Paul dit quand il dit j'ai appris à vivre dans la disette et à vivre dans l'abondance. Voilà. C'est-à-dire, dans les deux cas, je dis merci toujours. Et vous voyez, faire de Dieu le premier sujet de prière, ça peut sembler austère et difficile, et en même temps, ça devient un sujet d'émerveillement et de contentement et de pleine satisfaction. Tout le reste est cadeau en plus, si Dieu veut. Voilà. Et là, je vais terminer là mon premier point. On voit que le cheminement de l'épreuve et le cheminement de la prière sont équivalents. Et je voulais cette piste-là. Ce qu'on apprend dans l'épreuve difficilement, ce que j'appelle un peu le chemin du deuil, c'est exactement le cheminement de la prière. Et c'est pourquoi la prière est difficile. Seigneur, s'il faut mourir pour être dans ta volonté, je suis prêt à mourir maintenant. Mais l'important, c'est d'être avec toi. C'est la prière. C'est ça la prière. Alors, c'est le contraire de la volonté naturelle, de la volonté propre. Donc, c'est le contraire, c'est une folie. C'est incompréhensible. C'est difficile de faire quelque chose d'incompréhensible pour la plupart de ceux qui nous entourent. On dira, mais ça ne va pas la tête. Voilà. Mais voilà, ils ne connaîtront pas. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Je m'arrête là pour ce premier temps. Pensez au plaisir de Dieu. On a un Dieu qui peut avoir du plaisir, hein, ou qui peut être attristé. Pensez au plaisir que Dieu a en nous, ou à la peine qu'il peut avoir avec nous. Je trouve que c'est une vraie motivation pour un chrétien. C'est comme un enfant qui dit « je voudrais » ou qui voudrait faire plaisir à son papa ou à sa maman. C'est bouleversant, quoi. C'est la maturité. Hein. Ça, c'est la maturité de l'enfant et c'est la joie de l'enfant. L'enfant qui fait plaisir à sa maman ou à son papa, il est plus heureux que l'enfant qui pense qu'à lui. C'est sûr et certain. Seigneur, que ta joie... Seigneur, que ta joie grandisse. C'est fou, hein? Comme une poule rassemble ses petits, j'ai voulu vous rassembler. Voilà. J'ai planté une vigne sur un coteau fertile, j'espérais qu'elle porterait du bon fruit, et elle en a porté du mauvais. Que ferais-je à ma vigne? Qu'y avait-il à faire que je n'ai pas fait pour elle? La peine de Dieu et la joie de Dieu. Que nos cœurs soient sensibles à ça, franchement. Seigneur, si je te fais de la peine, que je m'en rends compte vite. Que je continue pas comme ça, je fais de la peine à Dieu, je me rends même pas compte. Que tu m'arrêtes, Seigneur, et que je puisse être pour toi un sujet de joie. Bon. Pensez à la joie de Dieu. Je le note, hein. Voilà. On va voir le second pas maintenant. Et j'espère que vous verrez le lien entre les deux. Hein. Je l'ai appelé prier avant de prier, ou la prière qui écoute. Mais déjà, nous avons abordé ce pas quand j'ai parlé de la contemplation. Et j'ai vu que vous avez saisi ce que ça voulait dire. Hein. Faire de Dieu le premier sujet de notre prière, c'est un peu ce que j'appelle prier avant de prier. L'image qui me vient un peu à l'esprit là, c'est l'image, alors je ne sais pas si elle va vous parler, et vous savez, j'ai accompagné des soldats sur des champs de manœuvre, notamment des artilleurs. Donc un artilleur, il est auprès d'un canon, et le canon tire sur un objectif que les yeux ne voient pas. Vous voyez, c'est la différence avec la cavalerie. La cavalerie, c'est un tank qui tire ce qu'on appelle tir tendu. Donc il voit un objectif là-bas, une colonne de jeep qui avance, il tire, l'obus va aller droit au but. L'artilleur, ce n'est pas cela, il tire en cloche. voyez, à 30 km peut-être. Donc ils ne voient pas l'objectif, mais il faut quand même que l'objectif soit atteint. Et vous imaginez qu'un artilleur, il a besoin de plein d'éléments pour que son tir soit guidé. Notamment, par exemple, une sonde en l'air qui voit l'objectif et qui donne les coordonnées. Et l'artilleur, il rentre ça dans son ordinateur. La vitesse du vent, la terre qui tourne sur elle-même, c'est incroyable, hein. Et puis, un objectif qui est mobile ou immobile. Et il faut, voilà. Et il passe tout un temps à viser. Je vais vous raconter quelque chose. Autrefois, il n'y avait pas d'ordinateur. Mais il y avait, sous le fût du canon, quand les canons étaient anciens, il y avait un petit, comme sur les niveaux, une bulle dans de l'eau. Et donc, on rentrait les indications latérales, verticales, et il fallait que la bulle soit au même moment. Ça s'appelait buller. Et donc, le soldat était couché sous le fût et il bullait. C'est rigolo, hein, j'ai appris ça, quoi. Est-ce que c'est du temps perdu? Pas du tout. Parce que de la précision de ce réglage dépendait l'efficacité du tir. C'est ce que j'appelle prier avant de prier. C'est-à-dire, prier, c'est dire, Seigneur, je te demande cela. Mais si c'est désordonné, si c'est n'importe quoi, le Seigneur va répondre à ma prière? Et donc, est-ce que Dieu va répondre à une prière désordonnée? Est-ce que Dieu va répondre à une prière n'importe quoi? Seigneur, fais qu'il fasse beau. On peut toujours demander qu'il fasse beau, mais enfin, est-ce que c'est la prière ordonnée? Nous avons cette parole, hein. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez n'importe comment, dans le but de satisfaire vos passions. Mais qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Si par contre, avant de prier, j'ai prié, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. Si avant de demander à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est d'abord toi. Seigneur, je vais abandonner ceci, je vais abandonner cela, je vais me réconcilier avec un tel, je vais me rappeler ta promesse, je vais mettre devant toi l'espérance que tu as acquise pour moi. Elle est certaine, cette espérance. Ce jour est un jour de grâce. Seigneur, je veux faire ta volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. Et maintenant, conduis-moi dans la prière. C'est ce que j'appelle prier avant de prier. Ma prière sera conduite, hein, et par la grâce de Dieu, je vais peut-être bien demander ce que Dieu veut que je demande. Et si je demande ce que Dieu veut que je demande, je l'obtiens rapidement. Et là, dans mes notes, j'ai mis en annexe quelques lignes, on ne va pas les développer maintenant, sur les dons spirituels. Dons spirituels, par exemple, je dis à quelqu'un, lève-toi et marche. C'est un don spirituel. Je ne dis pas à n'importe qui, lève-toi et marche. Mais vous voyez, cette parole-là, c'est une parole de foi. Elle est reçue de Dieu. Vous comprenez? Elle est reçue de Dieu. Celui qui dit ça, soit c'est un idiot, soit c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu une parole de foi, et quand il le dit, la personne se lève et se marche. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et évidemment, il y aura de la reconnaissance pour Dieu. Ce que j'appelle un don spirituel, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui donc ne se trompe pas. C'est reçu. Parole de foi, une parole de connaissance, un don de miracle, de guérison. Je crois, ces choses-là, une parole prophétique, la parole qui vient à point nommé, n'est-ce pas? Mais voilà. Et puis on l'a pas. On s'y est préparé, mais c'est donné. C'est surprenant, quoi. Ça n'a pas été calculé à l'avance, n'est-ce pas? Voilà, j'ai pu le saisir parce que d'abord j'avais dégagé l'espace, j'avais ouvert mon esprit, j'avais dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse aujourd'hui. Bien, prier avant de prier, ça veut dire, Seigneur, moi je ne sais même pas ce qu'il faut te demander, mais ce qu'il faut te demander, c'est toi qui vas me le montrer. Et donc, je pourrais dire cela, de même que la foi vient de Dieu, même la prière, hein, vient de Dieu. C'est étonnant, cela. La prière que Dieu agrée, c'est une prière que Dieu me donne. Tout est grâce. Il faut aller jusque-là dans le message de la grâce, vous comprenez? Voilà. Tout est grâce, même la prière. La prière que Dieu exauce, c'est la prière que Dieu inspire. Ça veut dire que si par exemple dans mon cœur j'ai 10 prières qui se bousculent, il y en a 9 qui sont inutiles. C'est même pas la peine de les dire. Ou bien je vais les dire, mais en tâtonnant, vous voyez, pour chercher ma route. Seigneur, j'aimerais que... Voilà. Quand Jésus dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, on pourrait presque dire, c'est une prière pour rien. Parce que Jésus avait dit, il faut que... vous rappelez ça? Il faut... Je suis venu pour ça. Il faut que le Fils de l'homme soit arrêté, mis à mort et qu'il ressuscite. Tout était prévu. Et Jésus qui dit, il faut que, c'est écrit que, maintenant il dit, Seigneur, si tu voulais éloigner de moi. C'est une prière tâtonnante. Vous voyez comme Jésus a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, dit l'Épître aux Hébreux. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il a été secouru en poussant de grands cris. C'est incroyable. Et nous, bien que nous soyons fils et filles, nous apprenons encore. Et donc, il peut y avoir des prières tâtonnantes. Seigneur, j'aimerais que, mais je ne sais pas si c'est juste. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. C'est ce que j'appelle prier avant de prier, en quelque sorte. Examine-moi, Seigneur. Tout est devant toi. Et là, vous vous rendez compte que l'écoute, la prière qui écoute, l'écoute est aussi importante que la parole dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et le Seigneur va le dire. Pas forcément pendant le temps de la prière. Peut-être je vais dire Amen et je n'ai pas entendu le Seigneur me montrer quelque chose, mais il me le montrera. Parce que montre-moi ta volonté, ça c'est sûr que c'est une prière qui vient de Dieu. Il me le montrera, d'une manière ou d'une autre, même par un incroyant, même par France Inter, peu importe, le Seigneur a 1000 moyens pour me parler, vous voyez. Mais est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que j'ai ouvert l'écoute? Est-ce que j'ai ouvert l'écoute? Seigneur, voilà, bien reçu, 9 sur 10, 10 sur 10. Je te reçois 10 sur 10. Vous voyez la communication? C'est le contraire de la prière sourde. Vous imaginez une prière sourde? Seigneur, c'est ça que je veux. Le reste ne m'intéresse pas. Seigneur, je veux ça. Ah bon? Eh bien, on a le temps. On va prendre le temps. Rendez-vous plus tard. Et entre-temps, on risque de perdre beaucoup de temps et de faire beaucoup de bêtises. Même avec la bonne volonté, vous voyez. La bonne volonté, c'est zéro. Les sentiments, c'est zéro. Quand Pierre dit à Jésus, mais moi je vais te défendre, je vais me battre contre toi, Jésus lui dit, t'as rien compris, tu es même un ennemi quand tu dis ça. Seigneur, j'ai une bonne idée, je vais te défendre jusqu'au bout. Tu es un ennemi, tu me parles comme un ennemi. Donc prier avant de prier... Prier avant de prier, c'est accepter l'échec de nos plans, de notre bonne volonté, de nos projets, de notre intelligence, de notre bagage naturel. Paul a dû dire, tout cela, j'ai dû le mettre de côté. Pour devenir un serviteur de Dieu, devenir une servante du Seigneur. Prier avant de prier. Quand Paul écrit dans Romains 8... Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Il le dit en toutes lettres quand même. Hein. Voilà. Et il dit, l'Esprit nous aide et intercède au-dedans de nous. Et c'est selon lui que nous demandons ce que Dieu veut. Et on pourrait presque aller jusqu'à dire, celui qui prie bien au-dedans de nous, c'est l'Esprit. Puisque c'est lui qui veut. Comment... C'est qui sait mieux que le Saint-Esprit ce que Dieu veut? Ben, c'est personne, évidemment. Et donc, en un sens, on pourrait dire, ce n'est pas moi qui prie, c'est Christ qui prie en moi. On pourrait paraphraser cette phrase de l'apôtre Paul, voyez. Et oui. Et oui. Et oui. Et donc, de même qu'on dit, mais je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais Christ accomplit mon salut, on pourrait dire, je ne peux pas prier tout seul.
Je ne suis pas compétent.
Je suis pas compétent. Je suis comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prière, ils... Voilà. Et quand je renonce à la prière autonome, à la prière aveugle, à la prière sourde, à la prière qui dit « moi je », eh bien, là, le Seigneur prend le relais. Maintenant, je vais te conduire. Bon, là, c'est l'exemple de Paul quand même, la conversion de Paul, vous vous rappelez ? Paul priait bien. Il était un pharisien, ça prie un pharisien. Un pharisien, ça prie. Et même, il connaît la parole de Dieu et tout ça. Et vous vous rappelez la conversion de l'apôtre Paul ? Enfin, la conversion de Saul de Tarse, dans Acte 9. La conversion de Saul de Tarse, Acte 9. Jeté à terre, sans boire et sans manger, pendant 3 jours et 3 nuits, conduit comme un petit enfant, mis en dehors du circuit des gens actifs et utiles, donc inutiles, voilà, inutiles, un homme qui peut ni boire, ni manger, ni voir, il est inutile, c'est une charge pour les autres, on pourrait dire, voilà. Et puis, à ce moment-là, Dieu parle à Ananias. Dieu, dans une vision dite à Ananias, là, il y avait quelqu'un qui était utile, n'empêche. Il reçoit une vision. Il était capable de recevoir une vision. C'est pas mal que Dieu montre quelque chose à quelqu'un. C'est utile. Il y a dans la rue un homme nommé Saul de Tarse, tu vas aller prier pour lui. C'est un persécuteur. Comment j'aurais prié pour un persécuteur ? Vous voyez, le dialogue. Mais pour dialoguer, il faut écouter. Et Dieu lui dit, oui, mais c'est un homme... Vous voyez la précision de ce dialogue, quand même. C'est incroyable. Oui, mais cet homme est un instrument que j'ai choisi. Va le voir, car il prie. Va le voir, car il prie. On a l'impression que Dieu dit, enfin, il écoute. Et là, je dis, prier et écouter sont synonymes. Enfin, il écoute. Vraiment, hein ? Avant, il priait tout seul. Avant, il faisait les questions et les réponses. Avant, il avait tout compris, il avait son plan. Il priait, mais ça n'allait pas plus loin que le plafond de la synagogue. Voilà. Maintenant, il prie. Va le voir, car il prie. Et je vais lui montrer ce qu'il fera pour moi. Ça veut dire, car il écoute. Et il va devenir un instrument entre mes mains. Et la prière, c'est d'abord une écoute. Dietrich Bonhoeffer, je suis en train de lire la vie de Dietrich Bonhoeffer, un livre épais comme ça. Dietrich Bonhoeffer a écrit un texte très beau sur l'écoute. Un texte, c'est un pasteur allemand, vous savez, vous connaissez un petit peu Dietrich Bonhoeffer, qui a été mis à mort par les Allemands 3 semaines avant la fin de la guerre. C'est fou, hein? Voilà, qui a écrit de très beaux livres. Il a écrit Le prix de la grâce, il a écrit De la vie communautaire. Il a écrit un texte que je donne souvent à mes visiteurs sur l'écoute. Et il dit, dans ce texte, il dit, le premier devoir que l'on doit à notre prochain, c'est de l'écouter. C'est très beau ce texte. Et il dit, les serviteurs de Dieu pensent qu'il faut qu'ils parlent, mais ils devraient apprendre aussi à écouter. D'abord à écouter. Celui qui écoute fait mieux que celui qui parle. Tout ça, on peut l'appliquer vraiment à la prière. Il dit, celui qui ne sait pas écouter, même dans sa prière, il parle et il s'imagine que, voilà, c'est ses prières qui vont changer quelque chose. Alors que dans la, voilà, il ne peut même pas écouter Dieu. Celui qui n'écoute pas son prochain, comment peut-il écouter Dieu ? Il développe la dimension de l'écoute. L'antenne, vous voyez, qui se dresse. Seigneur, parle ton serviteur, écoute. Voilà. Le petit Samuel, vous vous rappelez ? Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Ça ne s'est pas fait tout seul, hein. 3 fois, il pensait que c'était Élie, c'était Dieu qui lui parlait, mais il ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel, ne lui avait pas encore été révélée. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Je te ferai entendre des choses qui vont étourdir les oreilles de ceux qui l'entendront. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, dans notre temps, il faut des gens qui écoutent ce que Dieu dit. Voyez. Et on pourrait dire... Pour rejoindre les dons spirituels. La volonté générale de Dieu, voilà, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a dit, l'enseignement, les vérités permanentes de Dieu, on va y revenir dans le troisième point, mais aussi ce que Dieu dit maintenant, ce que Dieu dit aujourd'hui, la dimension prophétique de la parole. Est-ce qu'il ne manque pas aujourd'hui en France des gens qui donnent une parole prophétique pour le peuple de Dieu, qui ne remplacent pas l'enseignement, mais qui disent « Aujourd'hui, voilà la parole qu'il faut entendre, la parole juste, la parole pour ce temps, la parole pour ce lieu, la parole pour cette génération, qui peut l'entendre avant de la dire? Et qu'est-ce qu'il y a à dire si on n'a pas d'abord reçu, si on n'a pas d'abord écouté? C'est la dimension de la grâce. Voilà. Je ne suis pas capable, non seulement je ne suis pas capable d'accomplir ce que Dieu me demande, mais je ne suis même pas capable de demander ce que Dieu veut que je demande. Même la demande, c'est Dieu qui doit la conduire, sinon elle est désordonnée. Et si elle est désordonnée, comment Dieu peut y répondre? Seigneur, inspire même ma demande. Ça, c'est vraiment la dimension de la grâce que la réforme a développée très fort. Alors, quelqu'un dira, oui, mais un incroyant qui invoque Dieu de tout son cœur, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Un incroyant qui dit, je ne sais pas moi, le brigand sur la croix, qui dit, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne, ça vient de Dieu. Voyez ? Et Jésus lui répond tout de suite, puisque ça vient de Dieu, il n'y a pas d'obstacle pour... La réponse est immédiate, voyez ? Et des fois, il faut 30 ans pour comprendre quelque chose. Et lui, il le comprend en quelques minutes, en quelques heures. Et il est sur une croix et il parle à quelqu'un qui va mourir et qui est ensanglanté. Mais cette prière, elle vient de Dieu. Il a écouté Dieu qui lui disait, celui-là est juste. Pendant que l'autre brigand appelle aussi Jésus, vous vous rappelez ? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il invoque le nom de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, eh bien descends et fais-nous descendre. Et Jésus lui répond même pas, il le regarde même pas. C'est incroyable. Deux qui prient, un pour rien et l'autre qui est exaucé tout de suite. Tu seras avec moi dans le paradis. Et donc il y a une prière qui est inutile et une prière qui fait mouche tout de suite. Parce qu'une a été à l'écoute et l'autre était une prière sourde. Une prière insensée, une prière arrogante. Ça, il faut prier avant de prier pour dire la parole que Dieu attend. Et la prière, la parole que Dieu attend, c'est la prière, c'est la parole que Dieu donne par son esprit. Donc, voilà, d'abord dans le silence. Et là, je voudrais, avant de m'arrêter peut-être déjà, parler du fils prodigue. Vous rappelez évidemment le fils prodigue, hein ? Il a dépensé ses biens, il a fait la fête, il a passé du bon temps, enfin du bon temps entre guillemets, et puis il se retrouve comme pourceau. Il ne pouvait même pas manger ce que les pourceaux avaient à manger, moins comme pourceau. Pour un juif, moins comme pourceau, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Il est fini. Il est dans la faillite totale. Hein. Il est comme un moribond, on pourrait dire. Il est tout seul. C'est très important. Il est tout seul. La solitude. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. La solitude, très important. Les gens disent, moi, je ne supporte pas la solitude. C'est dommage. Parce que pour prier, il faut être seul. Et Jésus a sur les 3 ans de ministère, Jésus a passé au moins la moitié de ses 3 ans tout seul. C'est quand même quelque chose pour dire, mais... Il y a le temps à faire. Voilà. Il a alterné les temps de solitude et les temps de contact. Le fils prodigue était tout seul avec les pourceaux. J'imagine le silence. Quand on est tout seul, en général, il y a le silence. Il n'y a pas la radio. Pas la radio. À la mission Timothée, c'est vers Anduze, là, un peu partout aussi. Ils accueillent plein de gens qui ont des problèmes. Et ils disent, zéro condition pour venir. On vous nourrit, vous restez le temps que vous voulez. Il y a une condition, pas de musique. Vraiment, hein. Vous voulez fumer, il y a un endroit pour fumer. Voilà. Sinon, vous êtes à l'heure au repas, et il y a un moment de recueillement le matin, un moment de recueillement le soir. Si vous parlez, vous parlez. Si vous voulez pas parler, vous parlez pas. On vous accueille. Mais il y a une condition, pas de musique. Pas de transistor, pas de baladeur, pas d'écouteur, pas de musique. La musique, c'est que les chants pendant le moment de recueillement. La musique empêche Dieu d'écouter. J'ai même lu un article un jour dans un journal qui s'appelle Le Courrier International, qui parle d'une prison chrétienne en Argentine. C'est étonnant, hein, qu'en Argentine, ça existe. Une prison chrétienne. Eh bien, il dit, pas de télévision dans la prison, car la télévision tue la spiritualité. Ben, je l'ai lu comme ça, hein. Tue la spirituelle. Et maintenant, vous savez, avant dans les hôpitaux, c'était marqué silence hôpital. Ça veut dire on se recueille dans ce lieu. Maintenant, il y a la télé dans chaque chambre. Vous voyez ? C'est très dur de se recueillir avec la télé. Très, très dur. fils prodigue était tout seul, il y avait juste le bruit des pourceaux qui mangeaient les carreaux, vous voyez. Voilà. Et dans la solitude et dans le silence, il est dit, il rentra en lui-même. C'est étonnant cette expression. Il n'est pas dit qu'il prie. C'est étonnant, hein. Il n'est pas dit, il prie, Seigneur, viens à mon aide. C'est pas marqué. Il est dit, étant entré en lui-même, il se dit. Et ça, c'est Dieu qui lui parle. C'est pas marqué, mais c'est tellement évident, n'est-ce pas? Combien de serviteurs chez mon Père ont de la nourriture en abondance? Là, il est en train d'écouter une voix qui lui dit, regarde où tu en es maintenant. Chez ton Père, il y a ce qu'il faut. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. C'est Dieu qui lui parle. C'est pas dit, vous voyez. Il est rentré dans son cœur. Ça, c'est prier avant de prier. C'est ce que j'appelle prier avant de prier. Je me lèverai, je dirai à mon Père, je ne suis pas digne que tu me traites comme de ton fils, traite-moi comme de ton serviteur. Et il se lève et il y va. Et le fait qu'il se lève et qu'il y va, c'est la preuve qu'il a vraiment écouté ce que Dieu lui disait. Et son Père est là. Ouais, c'est comme Ananias et Saul, quoi, hein. Dieu parle à l'un et parle à l'autre en même temps. Ça ne s'organise pas, ça. C'est la grâce pure. Le Père est là, qui l'attend devant la maison. Et c'est le début de la fête. Voilà. Que de temps gagné quand on écoute Dieu. Donc, prier avant de prier, c'est ça. C'est se mettre en condition de recevoir ce que Dieu a préparé. Parce que c'est ça qui est le plus important de tout le reste. Voilà. Je mentionne encore juste un verset que j'aime beaucoup, hein, Ésaïe 50, versets 4 et 5. Ça va faire le lien entre les deux premiers moments de méditation. Je cite ces deux versets de mémoire, hein. Le Seigneur me donne une langue exercée pour que je sache soutenir ceux qui sont abattus. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Vous voyez, chaque matin, il éveille mon oreille. Vous voyez, c'est pas tout seul. C'est pas le yoga ou la sophrologie ou je sais pas quoi, quoi. Il éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Voilà. Eh bien, ça, c'est une prière qui ne parle pas, mais qui laisse Dieu toucher l'oreille, toucher le cœur pour écouter. La prière a besoin d'être conduite, hein, comme nos pas. Voilà, c'était le deuxième moment de notre petit pèlerinage de ce matin. Qu'on aurait dû faire. Mais je pense que ce qu'on a vécu était pas ridicule. Hein. Merci. J'ai besoin que vous soyez avec moi. Je vais peut-être être un peu moins long sur les deux points qui restent, parce que forcément, en débordant, on les a déjà un petit peu touchés. Et vous allez voir, vous allez le voir d'ailleurs. Le point qui vient maintenant, le point 3, si vous avez votre petit programme sous les yeux, s'appelle « Ma prière et mon ressenti ». On a un petit peu parlé de ça ce matin, hein. Quand une idée me passe par la tête, ben, c'est Dieu qui me parle ou c'est moi qui suis en train d'imaginer quelque chose? C'est une vraie question. Je l'illustre, par exemple, en revenant un instant sur ce qu'a vécu le fils prodigue. Le fils prodigue est rentré en lui-même. Il n'est pas dit « Dieu lui parla », comme on voit avec les prophètes de l'Ancien Testament. Mais il se dit, vous voyez, le texte dit « il se dit ». Combien de serviteurs? Alors, est-ce que ça venait que de lui? Il aurait pu dire « ça vient de moi, c'est n'importe quoi, j'ai faim, donc je pense à ce qu'il y a chez mon papa, quoi, c'est tout, c'est charnel, c'est mon ventre ». Mais de toute évidence, c'était pas son ventre, c'était Dieu qui lui disait « ta place, voilà, tout ce que ton père a est à toi ». C'est ça, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai est à toi. Voilà. Et donc, c'était bien Dieu qui parlait au fils prodigue, mais comment savoir que c'est Dieu? Ce matin, j'ai évoqué, par exemple, Matthieu 16, quand Pierre dit à Jésus « Non, 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 on va pas te mettre à mort, moi je te défendrai ». Et Jésus le reprend sévèrement, mais juste avant, Pierre avait dit « Tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc, vous voyez, dans quelques instants de différence, il y a une pensée qui vient de Dieu. Vous vous rappelez la parole que Jésus dit à Pierre à ce moment-là ? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang, mais mon Père te l'a révélé. L'écoute de Dieu. Mon Père, tu ne l'as pas trouvé tout seul, mon Père te l'a révélé. Donc, en quelques instants de distance, Pierre entend le Saint-Esprit qui lui parle, et ensuite le diable qui lui suggère une fausse bonne idée, qui est une pensée d'homme. Et Jésus dit dans un premier temps, ça ne vient pas de l'homme, ça vient du Saint-Esprit. Et juste après, il dit, ça ne vient pas de Dieu, c'est toi qui as imaginé ça, et derrière toi, c'est le diable qui nous tend un piège. C'est comment s'y retrouver ? Voilà la question que je pose maintenant, puisqu'on a parlé d'écoute. Bon, ben même des non-croyants parlent d'écoute. C'est un thème à la mode un peu, hein, quand on ne sait plus quoi dire. Quand on n'a plus de message, on dit « on est à l'écoute, on se tient à l'écoute les uns des autres, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, quoi. Je t'écoute, tu m'écoutes, nous nous écoutons. » L'écoute, c'est merveilleux, et en même temps, on peut tourner en rond avec l'écoute, on peut capter n'importe quoi qui passe. Voilà. Comment savoir ? Et là, j'introduis... Voilà, deux points qui sont sur votre petit condensé, abrégé, que j'ai appelé l'écriture et l'esprit, pour le premier, et dans un deuxième temps, l'âme et l'esprit. Voilà, l'écriture et l'esprit, je vais passer rapidement, mais quand même c'est important. L'écriture et l'esprit, d'abord il y a un lien très étroit entre l'écriture et l'esprit. C'est par le Saint-Esprit que des hommes mis à part ont parlé de la part de Dieu, ont écrit de la part de Dieu. Donc nous croyons ici que l'écriture, c'est pas simplement une tentative sociologique, culturelle, religieuse, d'essayer de formuler quelques vérités sur Dieu. Nous croyons que Dieu a pris l'initiative de transmettre sa parole à des hommes choisis, comme parole de son alliance, parole du testament de son alliance. Ça, c'est important de le rappeler, notamment dans le dialogue avec les chrétiens, les protestants de tendance libérale, qui vont dire, mais la parole, c'est Jésus. Et c'est pas faux. La parole, c'est Jésus. La parole éternelle, c'est Jésus. Et du coup, ils disent, l'écriture, c'est juste un témoignage qui est rendu à Jésus, mais c'est un témoignage humain. Voilà. On entend ça quand on côtoie ces milieux-là. L'écriture, c'est ce que les hommes disent. La parole de Dieu est cachée dans l'écriture. Il faut la retrouver. Comme on retrouve une aiguille dans une botte de foin. Alors, ce qui va dans le sens du progressisme, de l'émancipation, c'est ça la parole de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, c'est la parole de Dieu. Mais tout le reste, on ne sait pas trop. Voilà le discours qu'on entend qui permet d'aboutir à une décision comme par exemple la bénédiction des mariages homosexuels. Quoi. C'est libérateur, donc c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre compréhension de la parole de Dieu. Hein. Nous croyons que Jésus-Christ est la parole éternelle de Dieu, ça oui, mais nous croyons que l'Écriture est aussi la parole de Dieu écrite sur laquelle notre foi trouve le fondement, parce que Dieu est lié par sa parole écrite. Voilà. Et donc, ce que Dieu dit, c'est une parole que nous pouvons recevoir comme une parole de Dieu. Et quand Jésus cite l'écriture, il dit « Dieu a dit » ou il dit « c'est écrit ». Jésus dit « c'est écrit ». Donc, pour nous, l'écrit a le statut de parole de Dieu, condition qu'on l'interprète correctement, évidemment. C'est pas du littéralisme sot, évidemment. Il faut l'interpréter correctement. Et là, le principe, un des principes clés, c'est d'abord la centralité de la personne de Jésus, et puis l'écriture qui s'interprète par l'écriture. Voilà. Je dis ça rapidement, ça me paraît important, parce que dans certaines facultés pluralistes, l'écriture est bien là comme un terrain d'investigation, mais elle est interprétée avec des outils des sciences humaines. Elle est interprétée avec la sociologie, l'anthropologie, la psychanalyse. Et donc on parle bien de textes de l'écriture, mais ils sont utilisés avec avec des outils qui ne sont pas les outils que la Bible donne elle-même. Bon, voilà, c'est un petit excursus, mais c'est très important parce que pour nous, comment dirais-je, croire en Dieu, c'est aussi croire Dieu. D'accord ? Croire en Dieu, c'est aussi croire Dieu quand il dit quelque chose. Voilà. Et alors ça, dans le discernement de ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, l'Écriture, évidemment, joue un rôle très important. Non pas pour abolir l'action de l'Esprit. Ça ferait de nous des scribes. Les scribes, ça veut dire qu'ils ont besoin de rien d'autre que de l'Écriture, des traditions et des outils d'investigation. On est seul devant l'Écriture, on fait ce qu'on veut avec l'Écriture, comme font certains juifs qui passent leur temps à commenter l'Écriture, mais avec science ou avec fantaisie, quelquefois. Hein. Voilà. Donc, l'Écriture est inspirée par le Saint-Esprit, elle doit être lue avec le Saint-Esprit. Et donc, quand nous disons l'Écriture est la parole de Dieu, et en un sens, elle prime sur toute autre chose, nous n'abolissons pas le rôle du Saint-Esprit dans la lecture de l'Écriture. Et en un sens, seul le Saint-Esprit permet de comprendre la portée du message de l'Écriture. Ça veut dire non seulement de voir des mots, mais de voir la réalité de ce que ces mots désignent. La réalité du péché, la réalité de la sainteté, la réalité du pardon, la réalité de l'espérance. Ce n'est pas que des mots. Quand Dieu dit un mot, derrière il y a la réalité. Le Saint-Esprit permet de dévoiler cela. Ça c'est très important. Et donc, il ne suffit pas d'avoir une bonne, comment dirais-je, une bonne intention, un bel élan, comme Pierre a eu plusieurs fois. Voilà, il faut avoir ce réflexe que Jésus a eu de dire qu'est-ce qui est écrit. Voilà. Hein. Jésus répond au diable en Matthieu 4, il est écrit. Hein, en grec, gegraptai. C'est un mot moi que j'aime beaucoup. Hein, gegraptai, il est écrit. Jésus a dit, il est écrit. Voilà, c'est magnifique. Et après la Pentecôte, après la résurrection et après la Pentecôte, les apôtres ayant reçu le Saint-Esprit se servent encore de l'Écriture pour démontrer que Jésus est le Christ. Après sa résurrection, Jésus souffle sur ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Et donc, dans notre foi évangélique, on ne dissocie pas le Saint-Esprit et l'Écriture. Ça me paraît vraiment très important. Pourquoi je dis cela? Parce que, en disant cela, à la fois, je maintiens éveillé notre écoute de cœur de ce que le Saint-Esprit peut me dire aujourd'hui, sans quitter le fondement sûr et durable de ce que l'Écriture dit. Les deux ne se contredisent jamais. Alors, j'ai pensé par exemple à ce qui est écrit au début du psaume 43, verset 5. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Donc le psalmiste, à ce moment-là, a une âme qui gémit. Bon. Mon âme gémit souvent. Donc je le comprends passablement. Et il dit: espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon sauveur et mon Dieu. Et là, on voit le secours de l'Écriture, voyez. Pourquoi il dit, il est mon sauveur et mon Dieu? Son âme ne le sent pas, mais l'Écriture le dit. Et là, on voit vraiment comment l'Écriture n'est pas un obstacle, n'est pas une lourdeur, n'est pas un frein. Elle est plus qu'un secours. Elle est révélation aussi, vraiment. Voilà. Pourquoi t'as battu mon âme? Je le louerai encore. Il est mon sauveur et mon Dieu. Voilà. Donc, ça me paraît très important de rappeler cela, parce que nous sommes tous, probablement, tentés de dire je ne sens pas, je ne sens rien, donc il n'y a rien. Comme a dit la sœur ce matin, je crois que je ne sens pas que Dieu m'aime, donc Dieu ne m'aime pas. Vous imaginez un soldat qui se mettrait en route comme ça, ou un sportif, ou voilà. Je ne sens rien, donc il ne se passe rien. Voilà. Je pense à cette parole de Proverbe chapitre 28 qui dit: si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. C'est fou ça, voyez. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Ça me renvoie à ce que Abraham dit dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiraient pas, quand bien même un mort ressusciterait. Donc ce n'est pas contre la résurrection, contre les miracles, contre l'action de l'Esprit. Mais le principal pour notre foi, c'est quand même le socle de la révélation scripturaire. Voilà. Voilà. Alors, comment discerner si ce que j'entends vient de l'Écriture, vient de Dieu, pardon? Là, il y a le repère de ce que dit la Bible. Voilà. Est-ce que ce que j'entends a la même origine que le texte biblique que je connais? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est la même inspiration? Voilà. Ça c'est évidemment très très important. Les deux dérives existent. Hein. Je dirais la dérive des scribes qui ne font qu'étudier la Bible de manière soi-disant scientifique et la dérive des inspirations débordantes. Le Seigneur me dit que j'ai vu un papillon, donc ça veut dire que j'ai ressenti quelque chose. Voilà, ces deux dérives existent vraiment et nous serrent d'assez près et elles font peur un peu toutes les deux. Ensuite, le deuxième point dans ce chapitre-là, ma prière et mon ressenti, c'est donc le rapport entre l'âme et l'esprit. Hein. Pourquoi t'as battu mon âme? C'est la sœur ce matin qui a dit, c'était touchant, hein, mon âme passe par des hauts et des bas, mais je peux signer ça, hein, je peux vous le dire, hein, moi qui vous enseigne aujourd'hui, je peux signer ce qu'elle a dit. Franchement, s'il y a un nuage qui passe, mon âme est triste. C'est fou, hein, je suis comme ça. Voilà. Voilà, c'est mon âme et je peux pas la nier. Je ne peux pas nier ce que je ressens. Par contre, je peux en être dépendant ou pas. Je peux dire à mon âme, il est mon sauveur et mon Dieu. Je peux dire à mon âme, pourquoi t'as battu autant de moi? Je peux dire à mon âme, le psaume 103 hein, que tu as cité ce matin, bénis l'Éternel, c'est un impératif, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme est comme une herbe qui penche, encore une fois, et je peux lui dire, redresse-toi, c'est par là qu'il faut regarder. Voilà. Mon âme, c'est moi tout seul, si vous voulez. Et aujourd'hui, dans tout ce qu'on appelle accompagnement spirituel en dehors du domaine de la foi, on est au niveau de l'âme. Autrement dit, du psychisme, puisque l'âme, en grec, c'est psouché. On est au niveau du psychisme, et on appelle ça le spirituel. Mais le psychisme, c'est magnifique, et en même temps, c'est piteux aussi, quoi. Hein. Le psychisme, c'est l'émotion. Alors, l'émotion, c'est quelque chose qui existe. Mais l'émotion, bonjour l'émotion, quoi. Hein. Pour construire une vie conjugale, ça suffit pas tout à fait, l'émotion. Et pour louer le Seigneur non plus. Voilà. Donc, on ne nie pas. Et c'est aussi l'intelligence toute seule. L'intelligence toute seule, c'est pas mal, mais enfin, c'est aussi très limité. C'est aussi la volonté. La volonté, hein, je te défendrai jusqu'à la mort. Mon œil, tu vas me renier trois fois cette nuit. Vous voyez, c'est toute la pauvreté, c'est toute la richesse et la pauvreté de l'homme. Voilà, vraiment. Hein. Avant-hier, j'ai croisé un homme dans la rue qui me dit, moi, je crois en l'homme. Voilà, je dis bravo quoi, bravo. Vous avez une foi plus grande que la mienne. Moi, je peux pas. Voilà. Donc le psychisme, c'est quand même une composante importante de l'être humain. On est d'accord, hein? Corps, âme et esprit, c'est les trois. Voilà. Que votre être tout entier, le corps, l'âme et l'esprit, soit gardé. Donc on va pas nier ni le corps ni l'âme. Mais l'âme, elle est très proche du corps. J'ai envie de dire ça comme ça. L'âme est très proche du corps. Si vous avez mal aux dents, votre âme, elle est down. Hein? Voilà. Donc l'âme, à l'hôpital, on le voit tous les jours, quoi. Tous les jours. L'âme, si quelqu'un a une âme déprimée, le ressenti de la douleur est à 8. Alors que la même douleur dans une âme guillerette est à 3. La même douleur est ressenti tout à fait différemment, donc le corps parle autrement, selon que l'âme est disposée à l'espérance, ou au contraire, incline au découragement. Voilà. Donc l'âme est très très proche du corps, et donc très proche du ressenti, et très proche de l'environnement, et très proche de l'extérieur. Très proche des sens. Voilà. Et ça, ben, même Jésus a été confronté à cela, quoi. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, quand même. Jésus avait aussi une âme. C'est le psychisme. Watchman Nee, je pense que vous pensez de Watchman Nee. Watchman Nee dit, l'âme, c'est l'être extérieur. Nous, on dirait l'être intérieur parce que c'est l'âme. Lui, il dit c'est l'être extérieur. Le corps, c'est l'être tout à fait extérieur. J'aime ça, vraiment. Hein. Il dit le corps, c'est l'être tout à fait extérieur, c'est la peau. L'âme, c'est encore l'être extérieur parce qu'elle réagit immédiatement aux stimuli de ce qui nous environne. Et il dit le cœur, c'est l'être intérieur. Et le cœur et l'esprit, c'est la même réalité. Le cœur, dans le sens biblique du terme, c'est l'esprit, c'est le lieu de l'esprit. C'est là où l'amour de Dieu est versé par l'esprit. C'est là où l'esprit de Dieu parle à mon esprit. Et donc, je ne veux pas développer ça trop, mais je pense que c'est important de connaître ces trois dimensions de notre être. Et donc, ma prière et mon ressenti, ou comment entendre si une parole vient de Dieu ou vient de moi-même, c'est le discernement entre l'âme et l'esprit. Quand même. Voilà, c'est le discernement. L'âme, le psychisme, le ressenti, la volonté propre ou les pensées, ce qu'on appelle les pensées, ce qui m'envahit dès que je me mets à genoux pour prier, si je ne mets pas Dieu en premier, c'est « tu as oublié ceci, tu as oublié cela, et il y a aussi un tel, et il y a aussi un tel, et aujourd'hui tu as ce rendez-vous, et maintenant tu as… » etc. C'est tout ce qui m'envahit, ça c'est l'âme. À moins que je dise « non, Seigneur, maintenant tu es en premier. » Ça c'est l'âme, voilà, je crois, hein, je crois vraiment… Quand il est dit que la parole de Dieu est affûtée comme une épée à double tranchant pour séparer l'âme et l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas évident de séparer l'âme et l'esprit, parce que ça se ressemble beaucoup, vous comprenez? Entre l'émotion d'amour et l'amour agapé, on peut bien se tromper, quoi. Et pourtant, quelle différence entre les deux. Quand je préparais ces notes, cet exemple m'est venu. Imaginez qu'on vous présente sur une feuille de papier 10 photos d'enfants, en disant, il faut prier pour l'un d'eux. Mais vous allez choisir le plus mignon ou celui qui vous ressemble. Ça, c'est l'âme. C'est évident, hein? Enfin, c'est évident, il me semble. Peut-être pas évident, mais moi, je trouve que vous avez 10 photos d'enfants, vous dites, ah, celui-là, il est mignon, je prie pour lui. C'est l'âme. Celui-là, il me ressemble, je prie pour lui. C'est l'âme. Comment? Pour qui Dieu voudrait-il que j'intercède? Ça n'a pas de rapport, vous comprenez? Ça n'a pas de rapport. Il y a une discontinuité entre l'esprit et l'âme, quelque part. Entre la chair et l'esprit. Entre la volonté humaine et la volonté de Dieu. Entre les bonnes œuvres et les œuvres bonnes. Il y a discontinuité. Sinon, c'est du rattrapage, vous comprenez? Voilà. Et donc, puisqu'il y a discontinuité, il faut bien faire taire une voix pour en entendre une autre. Et voilà. Sinon, on est dans des choses anciennes qu'on essaye de renouveler. Voilà. Voilà. Qui écoute son âme s'écoute lui-même. Voilà une formule courte qui, à mon avis, laisse à penser. Hein. Qui écoute son âme s'écoute lui-même. Voilà. Après, c'est le tempérament. Il y a le tempérament nostalgique. C'est mon cas, par exemple, vous voyez, bon, eh bien moi je vais écouter la nostalgie, voilà. Alors tiens, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était, on dira comme ça, bon, voilà. Celui qui a une âme sanguine, il est dans, je sais pas quoi, l'initiative, la réactivité. Celui qui a une âme, qu'est-ce qu'il y a, colérique, il est dans la réaction viscérale ou dans je sais pas quoi. Il y a un quatrième caractère, je sais plus lequel c'est, peu importe, voilà, mais... Voilà. L'esprit va agir, comment dirais-je, l'esprit ne nie pas notre âme, mais l'esprit se défie de notre âme. Voilà. Il intervient comme il veut. Voilà. Comme il veut, avec la liberté de Dieu, avec l'inspiration de Dieu. Sans infaillibilité, on n'est jamais infaillible. C'est pourquoi il y a la dimension collégiale, il y a la soumission les uns les autres, il y a l'écriture. Mais voilà. Si une pensée vient dans mon cœur, est-ce qu'elle vient de moi, est-ce qu'elle vient du Seigneur? Et là, pour dire encore un petit mot à ce sujet, je dirais, plus j'écoute ce qui vient du Seigneur, plus je deviens capable de l'entendre. Hein? Écouter veut dire recevoir et mettre en pratique. Donc, si Dieu me dit quelque chose, si Dieu me dit par exemple, humilie-toi à ce sujet, je dis Seigneur, j'entends. J'écoute quand je fais ce qu'il me dit. Vous voyez la différence entre entendre et écouter, hein? Oui, j'entends. J'écoute, je le fais. Si je le fais, la prochaine fois que Dieu me parle, je l'entends mieux et peut-être je peux l'écouter plus promptement. Si je dis non, ce que tu me dis, ça ne m'arrange pas trop, j'aurai plus de peine à entendre et évidemment à écouter ce qu'il me dira juste après. Et là, j'introduis déjà le quatrième point, c'est-à-dire la prière et la mise en pratique. Voyez, c'est le point qu'on verra tout à l'heure. La prière est suivie de la mise en pratique, mais la mise en pratique permet aussi de prier. Ça, ce sera le quatrième point. Voilà. Voilà. Un dernier mot sur ce point. Nous devons apprendre à discerner la dimension du cœur et de l'esprit en nous, parce que c'est une dimension qui est... On peut passer sa vie sans la connaître, quoi. D'abord, je pense qu'un incroyant a cette dimension obturée ou endormie, voire morte. Donc, il vit au niveau de son corps et de son âme. Un incroyant vit au niveau de son corps et de son âme. C'est ma conviction, hein. Par exemple, si vous donnez tous vos biens pour les pauvres sans amour, c'est l'âme. Ça veut dire des choses fantastiques quand même, hein. Celui qui livre même son corps pour être brûlé sans amour, c'est rien. Mais c'est son âme qui a fait ça. C'est ce qui fait tourner la terre, on pourrait dire, hein. Enfin, la terre, plutôt le monde des hommes, y compris les exploits, l'Hermione et tout ce que vous voulez, quoi. C'est l'âme, hein. C'est toute la volonté, toute l'intelligence, toutes les émotions, tous les films que vous pouvez voir. La plupart du temps, c'est l'âme humaine qui a mis cela en œuvre. Ce n'est pas rien. On pourrait se passer de l'esprit, on pourrait dire, hein. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. La vie, c'est l'esprit. Voilà. Et donc, un chrétien qui vit selon la chair, c'est un chrétien qui vit selon son âme. Voilà. Ses réactions premières, ce qui lui passe par la tête, ce qui lui fait plaisir, ce qui l'arrange, en fonction d'un calcul plus ou moins clair qui lui traverse l'esprit. Un chrétien qui vit par l'esprit, c'est un chrétien qui peut dire « Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. » Voilà. Je pense que cette prière-là, « Non pas ma volonté, mais la tienne », c'est la prière qui s'approche de ce que l'Esprit met au fond de notre cœur. Voilà. Que le oui de Dieu et le oui de l'homme se rejoignent vraiment, se donnent la main. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, hein. Et c'est en Christ. Parce que Christ a dit le oui de l'homme que Dieu attendait. D'accord? Et en Christ, notre oui rejoint le oui de Dieu. On pourrait dire cela vraiment. Je vais m'arrêter là pour ce troisième point. Hein? Et dernier point de ce parcours, je l'ai appelé « Ma prière est accordée avec ma vie ». Ma prière est accordée avec ma vie. J'ai rajouté au stylo ce matin « avant et après le Amen ». C'est-à-dire, quand j'ai dit « Amen », voilà, « est-ce qu'Amen », ça veut dire « terminé ». Ça, c'était M. Courtial aussi, le professeur d'Aix, qui nous disait ça. Il y a un enfant qui trouvait que la prière était trop longue, il disait « Amen », ça voulait dire « fin ».« Amen », ça ne veut pas dire « fin », ça veut dire « en vérité », hein. « Emouna », en hébreu, c'est la vérité. Donc, ça veut dire « en vérité », ça veut dire « tout commence maintenant pour mettre en pratique ce qu'on vient de dire avec des mots ». Et donc, là aussi, dans le contexte de laïcité cloisonnée dans laquelle nous nous trouvons, et puis avec la légèreté qui peut nous caractériser souvent, on peut dire, voilà, j'ai fait une belle prière, je reprends comme avant. C'est terrible, ça. C'est terrible, hein. J'ai fait une belle prière, où j'ai eu un bon culte, où j'ai eu une bonne formation, maintenant je reprends comme avant. Comme avant. Ça servit à quoi? À quoi alors? Voilà. Et ça, malheureusement, ça nous guette tous, comme, parce que c'est l'inertie de l'habitude, c'est l'inertie de nos résistances, etc. Voilà. Quelqu'un qui est, on pourrait dire, comment dire ça? Un ange à l'église, un diable à la maison. On l'a vécu, on l'a vu dans des milieux très piétistes, des prières mais incroyables à l'église et insupportables à la maison avec l'épouse et les enfants. Ça veut dire quoi ça? On trompe qui? On trompe qui? Voilà. Et donc là, je suggère cette cette formule, si vous voulez, la prière, c'est le contraire de l'hypocrisie, c'est le contraire de ça. La prière, c'est justement le contraire de ça. Et donc, ce qui se passe après la prière est aussi important que ce qui se passe avant et pendant. En un sens, on pourrait presque dire, si je poussais plus loin, peu importe la prière, maintenant on va voir comment tu marches. Et en un sens, le but de la prière, c'est comment je marche après. Et si quelqu'un a une âme simple, brisée, attentive, je veux dire quelque chose d'un peu provocant exprès, mais il pourrait même ne pas prier. Tant qu'il persévère dans la simplicité, l'écoute et l'humilité. Puisque le but est presque atteint déjà, si vous voulez. Oui, il prierait quand même, mais je veux dire, presque, il ne prierait pas, il démontre dans sa vie que le oui est dit. Que le oui de la foi est dit, vous comprenez? Et celui qui prie, qui dit, moi, juste je prie une demi-heure, il prie une demi-heure et juste après, il repart comme avant. Il se moque de qui? Ou plutôt, il évite quoi? Il fait semblant de quoi? Voilà. Donc, ce qui suit le Amen est très important et c'est un défi énorme. Un petit enfant qui se retrouve dans la cour de l'école, comment il fait par rapport à ses camarades de classe? Est-ce qu'il dit non à tout? Est-ce qu'il dit oui à tout? Le rôle des parents est très important. Hein? Donc un petit enfant qui dit non à tout, c'est un peu dommage. Dieu ne demande pas de dire non à tout. On peut jouer aux billes, on peut jouer au loup, on peut jouer à plein de choses, n'est-ce pas? Voilà. Donc on peut dire oui à plein de choses. Mais est-ce qu'on dit oui à tout? Est-ce que l'enfant de chrétien va dire oui à tout? Et non. Il dit oui, 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 là non. Là non. Pourquoi non là? Ben parce que Dieu veut pas. Ça, c'est le prolongement de la prière, vous comprenez? C'est le prolongement de la prière. Et le prolongement de la prière, on pourrait le dire comme ça, est aussi important que la prière. Ça, c'est sûr et certain, c'est écrit plusieurs fois. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Voilà. Plutôt, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Voilà, la formulation, c'est cela. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire Seigneur, Seigneur. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de mon Père, dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Et donc, faire la volonté de Dieu, en un sens, c'est la plus belle prière. Je le propose comme ça. Hein. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les prophètes l'ont dit comme cela, c'est très clair. Hein. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance est la preuve de la grâce reçue et d'un cœur disposé à dire que ta volonté soit faite, tout simplement. Hein. La parabole des deux fils le dit. Vous vous rappelez la parabole des deux fils? Un homme avait deux fils. Il dit à l'un, va dans ma vigne. Oui, 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 oui. Mais il n'y va pas. Belle prière. Belle prière. Mais il n'y va pas. L'autre dit non, il se repent et il y va. Lequel a fait la volonté de Dieu? Vous voyez, là Jésus est très très clair quand même. Hein, il ne dit pas qu'il faut dire non, mais il veut dire le mieux c'est de le faire. Et là, on peut dire que ça rejoint un petit peu les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui disent non, mais qui finiront par être de vrais obéissants un jour. Calvin le dit dans des pages très belles au sujet de ceux qui luttent dans leur conduite dans l'Église. C'est très très beau, hein. Calvin qui passe pour un intransigeant, il dit « Sur la doctrine, il faut être très exigeant, mais sur la pratique, hein, soyons pleins de miséricorde. » C'est très beau ce que dit Calvin, parce qu'il dit « Parmi ceux qui pêchent, hein, il y en a beaucoup qui sont malheureux. » Et il y en a beaucoup qui s'humilient et qui demandent pardon à Dieu et qui aimeraient qu'on les aide à aller de l'avant. Et donc déjà, ils sont dans la volonté de Dieu. Et pourtant, leur vie est une vie qui ressemble à une vie de défaite. Mais ils sont peut-être moins loin que ceux qu'on croit, parce qu'ils sont au moins dans l'humiliation. C'est très très beau cette page, très pastorale, vous voyez. Non pas pour dire, bon, c'est pas grave, mais pour dire, voilà, nous ne nous fions pas à l'apparence. Voilà. Que sert-il de dire oui, 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 mieux vaut obéir Il y a trop de versets bibliques, ne serait-ce que dans le Nouveau Testament, pour les citer tous. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est dit plusieurs fois. Et en un sens, encore une fois, c'est le but de la prière. Et là, je cite ce verset clé pour le thème que j'ai voulu servir aujourd'hui. Si nous faisons la volonté de Dieu, si nous gardons les commandements de Dieu, si nous faisons ce qui lui est agréable, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Alors, vous imaginez combien il faut lire attentivement cette parole-là, hein, parce que c'est écrit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. C'est énorme comme affirmation. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Mais il y a une condition. Si nous faisons ce qui lui est agréable. Et ce n'est pas un mérite, mais c'est une condition. Et ça, c'est une autre formule que je vous propose. Hein. Il n'y a pas de mérite, mais il y a des conditions. Voilà, ça, je pense que pour soi-même, voire pour d'autres, on peut le dire, je crois très clairement, bibliquement, il n'y a jamais de mérite, mais il y a souvent des conditions. Hein. Voilà. Si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez. Et la condition, ça fait partie de l'alliance de Dieu. Quoi. Ça fait partie de... Comment dire? Ça fait partie de l'intelligence renouvelée, ça fait partie de l'amour reçu et de l'amour pratiqué, ça fait partie de la foi. Voilà. Si mon peuple s'humilie, enfin voilà. Il y a des conditions, il y a beaucoup de conditions. Jamais de mérite. Voilà. Aujourd'hui, dans les milieux progressistes, on parle volontiers de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un peu une farce, quoi. Hein. Dans le cadre de l'élection, on peut parler de l'amour inconditionnel de Dieu. Mais la manière dont cette expression est employée aujourd'hui, ça veut dire « quoi que tu fasses, Dieu t'aime ». C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça. « Quoi que tu fasses, Dieu t'aime ». Tu crois, tu ne crois pas, tu marches dans la vérité, pas dans la vérité, peu importe, Dieu t'aime. Voilà. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Jamais de mérite, hein. Jamais de mérite, on ne mérite rien de ce que Dieu nous accorde, mais il y a des conditions dans la marche chrétienne. Et ces conditions, ce n'est pas une manière de retourner au légalisme, de se remettre sous la loi, c'est une manière de démontrer la foi. Voilà, démontre-moi ta foi par tes œuvres. Voilà, les mots sont importants, mais les mots ne suffisent pas. Ces conditions, cette condition dont je parle là, Jésus évidemment l'a rempli le premier, parfaitement. Hein? Et cette condition que Jésus devait remplir, c'est son obéissance. Et son obéissance, c'était sa foi. Et l'obéissance et la foi, dans ce registre-là, sont une seule et même chose. C'est l'obéissance de la foi. Et je le vois spécialement bien présenté dans cet épisode de la guérison du centenier. Vous savez, quand le centenier, du serviteur du centenier, ce centenier qui a un serviteur malade, ce centenier, c'est un craignant Dieu. Hein, c'est un craignant Dieu. Il a construit une synagogue. Il aime le peuple d'Israël. C'est le signe d'un craignant Dieu, c'est évident. Et il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, mais dis une parole et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à mon serviteur, fais une chose et il le fait. Toi, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire, tu as l'autorité de celui qui t'envoie. Tu as l'autorité de celui à qui tu obéis. Il dit ça à Jésus. C'est incroyable. Et Jésus dit, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est-à-dire une aussi grande intelligence des réalités spirituelles. J'ai l'autorité de celui à qui j'obéis. Ça donne envie d'obéir, je trouve. Hein? Voilà, ça donne envie d'obéir. Et donc, là, pour conclure, je ne vais pas rajouter plus. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure rapidement. L'obéissance de la foi doit suivre la prière tout de suite, hein? C'est la démonstration que je n'ai pas prié en me moquant, n'est-ce pas? Que mon cœur était vraiment avec ma prière, que le lien entre la bouche et le cœur était un lien solide. Mais l'obéissance doit suivre la prière, mais il est souhaitable que l'obéissance précède la prière aussi. Ça veut dire celui qui, dans l'obéissance, rentre dans la prière d'une manière qui va être beaucoup plus, éclairée, beaucoup plus dans le discernement, beaucoup plus dans la proximité avec Dieu que celui qui a fait à sa tête. Et donc, on pourrait dire qu'il y a des choses à vivre avant la prière. Dépose ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Pour pouvoir prier et pour que la prière soit suivie ensuite d'autres gestes et d'autres pas de justice, d'obéissance, de foi, de victoire. En d'autres termes, la prière ne peut en aucun cas être isolée de ce qui précède et ce qui suit. On pourrait le dire comme cela aussi. La prière ne peut pas être isolée de ce qui précède et de ce qui suit. Sinon, c'est une prière religieuse. Imaginons que je sois triste et d'un coup, dans la prière, j'ai un grand sourire enjoué et après la prière, je redeviens triste. On pourrait dire, c'est bizarre, vous voyez. Le lien entre la prière et la vie est bizarre. Voilà. Si je suis triste, prier en vérité, c'est dire « Seigneur, je suis triste ». C'est ça la vérité. « Seigneur, je suis triste ce matin ». Les psaumes nous donnent ce modèle-là. Lisez le psaume 13. « Pourquoi m'oublies-tu sans cesse? Pourquoi ai-je continuellement des chagrins dans mon cœur ?» Le psalmiste prie comme cela, n'est-ce pas? Et pendant qu'il dit ça, le Seigneur le visite. Et en 3 versets, ce psaume se termine par une parole de reconnaissance. Mais commence par une parole de vérité. Pourquoi ai-je continuellement des chagrins dans mon cœur? Voilà. Donc la prière liée à ce qui précède et la prière liée à ce qui suit, pour que le cœur et la prière soient unis. Je pense que c'est ce que Dieu attend pour nous. C'est ça, marcher en vérité. C'est une condition pour que Dieu nous conduise dans notre prière comme il veut nous conduire dans notre marche. Voilà. Il va le faire.